You're with SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 8 août 2019. Au Canada, la police a retrouvé le corps de deux adolescents suspectés d'avoir tué trois personnes en Colombie-Britannique, parmi lesquels un jeune Australien, Lucas Fowler. Aux États-Unis, Donald Trump est lui en visite à El Paso pour rencontrer les proches des victimes de la fusillade survenue ce week-end. Et au Cachemire, les relations se tendent entre l'Inde et le Pakistan qui revendiquent tous deux la souveraineté sur ce territoire le plus militarisé au monde. Et on commence ce journal en prenant la direction du Canada où la police a annoncé avoir retrouvé deux corps qui seraient ceux de deux adolescents recherchés depuis des semaines pour le meurtre de trois personnes parmi lesquelles l'Australien Lucas Fowler. Ce dernier a été abattu tout comme sa petite amie américaine le long d'une route dans l'état de Colombie-Britannique à la fin du mois de juillet. Et depuis, la police canadienne menait une véritable chasse à l'homme qui a tenu en haleine tout le pays. La découverte du corps des principaux suspects, dont la cause du décès n'a pas encore été révélée, devrait apporter un peu de réconfort à la population, d'après la commandante Jen McClatchy.
It's huge to be able to hopefully give some people an opportunity to exhale and to hopefully eventually go back to normal and not being afraid of who's out in the woods anymore.
Et son collègue Kevin Hackett a lui remercié l'ensemble des forces de police impliquées dans cette affaire. Il a également rappelé que l'enquête n'était pas encore terminée.
I'd like to thank our law enforcement partners across Canada, the United States and Australia for their support and assistance. In particular, our colleagues within the RCMP in Manitoba who spearheaded the exhaustive and challenging search in that province.
Allez, on revient en Australie et plus précisément en Nouvelle-Galles du Sud puisque la légalisation de l'avortement est de nouveau en débat au Parlement à Sydney ce jeudi. Contre toute attente, alors que l'avortement est déjà légal dans tous les autres États australiens, ce projet de loi suscite de nombreuses controverses et depuis l'ouverture des débats parlementaires mardi, de nombreux amendements ont été déposés pour rendre plus difficile la possibilité pour les femmes d'avorter au-delà des 22 premières semaines de grossesse. Alors on rappelle que le projet de loi initial prévoit en effet de légaliser l'avortement et ce sans aucune condition lorsqu'il se déroule pendant les 22 premières semaines de grossesse. En revanche, au-delà de ces 22 premières semaines, l'avortement serait possible sur avis médical. Et alors, les amendements déposés ces derniers jours proposent de compliquer un petit peu ce dispositif en impliquant davantage de personnes, puisque l'un de ces amendements, par exemple, voudrait soumettre la possibilité d'avorter au-delà de 22 semaines de grossesse, non pas à l'approbation d'un seul et unique médecin, mais à celui de tout un comité hospitalier. Alors, c'est un virage qui n'est pas du tout du goût des médecins, justement, pour qui ces formalités supplémentaires vont créer une entrave à l'accès aux soins et également alourdir la charge des personnels soignants. Et puis très rapidement, l'Australie a depuis ce matin un nouveau maître espion. C'est le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, qui l'a annoncé ce matin en nommant Mike Burgess à la tête de l'ACO, l'Australian Security Intelligence Organization, c'est un peu la CIA ou la DGSE version australienne. Donc Mike Burgess, le nouveau directeur de cet organisme, est déjà un fin connaisseur du monde du renseignement puisqu'il était auparavant directeur de l'ASD, Australian Signals Directorate, un organisme qui lui est chargé de la surveillance des télécommunications à l'étranger. On prend maintenant la direction des États-Unis où le président Donald Trump s'est rendu au chevet des victimes des deux dernières fusillades survenues ce week-end dans l'Ohio et El Paso au Texas et qui ont coûté la vie à 31 personnes. Donald Trump s'est notamment engagé à mettre en place des contrôles d'antécédents, les fameux background checks, alors que ce nouveau drame relance le débat sur la législation sur les armes à feu aux États-Unis. On écoute sa déclaration recueilli par Stéphanie Schuller pour RFI.
Je voudrais faire contrôler les antécédents des acheteurs d'armes. Je pense que c'est très important. Je ne veux pas laisser des armes entre les mains de personnes qui sont mentalement instables, des personnes emplies de rage et de haine, des personnes malades. Je vais certainement insister là-dessus. Il y a une grande et forte demande pour le contrôle des antécédents et je pense que nous pourrons nous en occuper comme jamais auparavant. Républicains et démocrates sont sur le point de se mettre d'accord sur une loi à propos du contrôle des antécédents. Je suis préoccupé par la montée en puissance de n'importe quel mouvement qui prône la haine. Je n'aime pas ça. Qu'il s'agisse de la suprématie blanche ou d'un autre genre de suprématie, n'importe quel mouvement qui prône la haine me préoccupe et me force à agir. Je ne pense pas que ma rhétorique soit en cause. Je pense que ma rhétorique rassemble les gens.
Alors une rhétorique qui rassemble les gens, c'était pas l'avis de l'ensemble des gens qui habitent à El Paso, où s'est donc rendu Donald Trump. Il y a effectivement plusieurs dizaines et même plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté contre la venue du président américain, puisque El Paso, c'est une ville qui se trouve à la frontière du Mexique et où la communauté latino est particulièrement importante. Et au sein de cette communauté, très nombreux sont ceux qui pensent que Donald Trump lui-même, par ses tweets, par ses déclarations très violentes à l'égard des immigrés, contribue à alimenter le racisme au nom duquel ces deux dernières fusillades ont été commises. C'est par exemple le cas d'Adriano Pérez. Il est universitaire à l'université ACLU au Texas.
On a day when Latinx communities across the country are afraid that they may be next. Today of all days, we must hold the president accountable for the pattern of racism that has defined his administration.
Et Marissa Lamon, elle, qui est de l'association Hope Border Institute, ne s'exprime pas en termes beaucoup plus tendres à propos du président américain.
Honnêtement, la visite de Donald Trump à notre frontière est une insulte pour nous. La présence de ce monsieur qui a parlé à plusieurs reprises des Sud-Américains, des Latinos vivant aux États-Unis et des Mexicains en des termes racistes et xénophobes, eh bien tout cela a généré une situation très grave ici à la frontière. Donc, nous demandons que le président arrête de parler en des termes aussi racistes au nom des États-Unis. Nous demandons aussi que le président demande pardon aux familles des victimes du massacre qui a eu lieu samedi dernier. Et troisièmement, nous voulons que le président soutienne le contrôle des armes et de la violence qui se produit quasiment tous les jours ici aux États-Unis.
Et on quitte la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour rejoindre celle entre l'Inde et le Pakistan, plus précisément au Cachemire, où la tension continue de monter après la décision, pour rappel, lundi dernier de l'Inde de révoquer le statut spécial de la partie de ce territoire qu'elle administre, le Pakistan voisin, et qui revendique également son territoire, a lui annoncé qu'il suspendait ses relations commerciales avec l'Inde et qu'il expulsait l'ambassadeur indien en poste à Islamabad. Sur place, les explications de Sonia Khesali pour RFI.
Nos ambassadeurs ne seront plus à New Delhi, leurs homologues ici seront renvoyés chez eux. Déclaration du ministre des Affaires étrangères à la télévision pakistanaise qui annonçait que le niveau des relations diplomatiques avec l'Inde sera abaissé. La décision a été prise au cours d'une réunion du Conseil de sécurité nationale présidée par le Premier ministre Imran Khan en présence de plusieurs ministres et de plusieurs généraux de l'armée. Quatre autres mesures ont été prises. La suspension du commerce bilatéral avec l'Inde, la présentation d'un recours auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer la décision de l'Inde d'annuler le statut spécial du Cachemire. Le Pakistan consacrera également la célébration du jour de l'indépendance du Pakistan, qui a lieu le 14 août, à la solidarité avec le Cachemire. Tous les canaux diplomatiques sont enclenchés pour mettre au grand jour le régime indien brutal et raciste et ses violations des droits de l'homme, lit-on dans un communiqué officiel. L'armée a quant à elle reçu comme instruction de rester vigilante. Les tensions sur la ligne de contrôle qui sépare les deux pays se sont fortement accrues ces dernières semaines.
Un mot de sport maintenant pour parler des prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo et où la délégation olympique italienne pourrait être absente. En cause, un projet de loi visant à réformer le Comité national olympique italien et qui se traduirait, cette réforme, notamment par un amoindrissement de l'autonomie de ce comité, une mesure contre laquelle le Comité olympique international a fermement mis en garde le gouvernement italien. À Rome, on fait le point avec Tom Rossi de RFI.
Avec au cœur de l'alerte du CIO, un projet de loi qui prévoit une réorganisation du CONI, le Comité National Olympique Italien, par le gouvernement. Le risque est assez clair, en affectant son autonomie, l'organisation deviendrait alors non conforme aux principes de la Charte Olympique. Dans tel cas, le CIO se réserve le droit de prendre toute décision appropriée, ce sont ses termes, et parmi elles, une possible exclusion des prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, voire le retrait de l'organisation des JO d'hiver de 2026, récemment attribué à Milan, Cortina d'Ampezzo. Ce mardi soir, quelques heures seulement après la publication de cette lettre, le Parlement italien a adopté une loi cadre qui autorise le gouvernement à réformer l'organisation du sport au niveau olympique. Gouvernement qui dispose à présent d'un an pour approuver les décrets d'application qui en découlent et de quelques mois pour clarifier les doutes qui naissent d'un malentendu, selon les dires du secrétaire d'État chargé des sports Giancarlo Giorgetti. Visiblement pas inquiet de voir l'Italie suspendue à Tokyo, comme ce fut le cas de l'Inde pour les JO d'hiver de 2014.
Et on fait maintenant un petit point sur la météo de ce jeudi. Des averses sur Perth et 18 degrés. Il y a du vent à Adélaïde avec 13 degrés. 13 degrés aussi à Melbourne où quelques averses vont rythmer la journée. Des nuages dans le ciel d'Hobart avec 11 degrés. De la pluie à Canberra avec 10 degrés. Du vent, mais au moins il y a un peu de soleil à Wollongong avec 19 degrés. C'est à peu près pareil à Sydney où il fait 21 degrés et 22 à Newcastle. Beaucoup de soleil à Brisbane avec 28 degrés. 28 degrés aussi à Cairns où cette fois il y a un peu de nuages dans le ciel. Et comme toujours à Darwin, 32 degrés et grand soleil.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.